Les satisfactions que l'on tire d'une existence laborieuse, aisée et tranquille, sont grandes, certes, mais l'attraction de l'abîme est encore supérieure. Stefano avait à peine 22 ans lorsque, Virgule, ayant dit adieu à ses amis de la ville et quitté son emploi, Virgule, il revint dans sa ville natale et annonça à sa mère son intention de faire le même métier que son père. Point. La brave femme, Virgule, à qui Stefano n'avait jamais soufflé mot du mystérieux squale, Virgule, accueillit sa décision avec joie. Point. Le fait que son fils eût abandonné la mère pour la ville lui avait toujours semblé, dans le fond de son cœur, une espèce de désertion des traditions familiales. Stefano prit la mer, révélant des qualités de navigateur, une résistance à la fatigue et une intrépidité remarquables. Il bourlinguait sans trêve, et dans le sillage de son bateau, jour et nuit, par bonasse ou par gros grain, il traînait derrière lui le cas. C'était là sa malédiction et sa condamnation. Il le savait. Mais justement, pour cette raison peut-être, il ne trouvait pas la force de s'en détacher. Et personne à bord percevait le monstre, si ce n'est lui. Est-ce que vous ne voyez rien de ce côté-là? Demandait-il parfois à ses compagnons en indiquant le sillage. Non! Nous ne voyons absolument rien! Pourquoi? Je ne sais pas. il me semblait.
Je n'aurais pas vu un cas par hasard. Et qu'un et les autres en touchant du fer.
Pourquoi riez-vous? Pourquoi touchez-vous du fer?
Parce que le cas est une bête qui ne pardonne pas. Et si jamais elle se mettait à suivre le navire, cela voudrait dire que l'un de nous est perdu.
Mais Stefano, ne réfléchissez pas. La menace continuelle qui le talonnait paraissait même décupler sa volonté, sa passion pour la mer, son ardeur. Dans les heures de péril et de combat,
avec l'héritage que lui avait laissé son père, lorsqu'il sentit qu'il possédait bien son métier, il acheta de moitié avec un associé un petit caboteur. Puis il en fut bientôt le seul patron. Et par la suite, grâce à une série d'expéditions chanceuses, il put acheter un vrai cargo, visant toujours plus ambitieusement de l'avant. Mais les succès et les millions n'arrivaient pas à chasser de son esprit cette obsession continuelle. Il ne songea pas une seconde à vendre le bateau et à cesser de naviguer. 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 Dans d'autres entreprises, naviguer, naviguer, naviguer. C'était son unique pensée. À peine avait-il touché terre dans quelque port. Après de longs mois de mer, que l'impatience le repoussait à repartir,
il savait que le cas l'attendait au large et que le cas était synonyme de désastre. Rien à faire. Une impulsion irrépressible l'attirait sans trêve d'un océan à un autre.
Jusqu'au jour où, soudain, Stefano prit conscience qu'il était devenu vieux, très vieux. Et personne de son entourage ne pouvait s'expliquer pourquoi, riche comme il l'était, il n'abandonnait pas enfin cette damnée existence de marin. Vieux. Amèrement malheureux, parce qu'il avait usé sa vie entière dans cette fuite insensée à travers les mers, pour éviter son ennemi. De l'abîme avait été plus forte pour lui. Que les joies d'une existence aisée et tranquille. Et un soir, tandis que son magnifique navire était ancré au large du port où il était né, il sentit sa fin prochaine. Alors il appela le capitaine, en qui il avait une totale confiance, et lui enjoignit de ne pas s'opposer à ce qu'il allait tenter. L'autre, sur l'honneur, promit. Ayant obtenu cette assurance, Stefano révéla alors au capitaine qu'il écoutait, bouche bée, l'histoire du cas qui avait continué de le suivre pendant presque 50 ans, inutilement. « Il m'a escorté d'un bout à l'autre du monde, dit-il, avec une fidélité que même le plus noble ami n'aurait pas témoigné. Maintenant, je suis sur le point de mourir. » Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux pas tromper son attente. Ayant dit, il prit congé, fit descendre une chaloupe à la mer et s'y installa après s'être fait remettre un harpon. Maintenant, je vais aller à sa rencontre, annonça-t-il. Il est juste que je ne le déçoive pas, mais je lutterai de toutes mes dernières forces. À coups de rame, il s'éloigna. Les officiers et les matelots le virent disparaître là-bas, sur la mer placide, dans les ombres de la nuit. Au ciel, il y avait un croissant de lune. Il n'eut pas à ramer longtemps. Tout à coup, le mufle hideux du cas émargea contre la barque. « Je me suis décidé à venir à toi, dit Stefano, et maintenant à nous deux !» Alors, ressemblant ses dernières forces, il brandit le harpon pour frapper. Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi, je suis recrue de fatigue, ce que tu as pu me faire nager. Et toi qui fuyais. Dire que tu n'as jamais rien compris. Mais compris quoi ? Fit Stefano piqué. Mais compris que je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. et le squale tira la langue, présentant au vieux marin une petite sphère phosphorescente. Stefano la prit entre ses doigts et l'examina. C'était une perle d'une taille phénoménale. Il reconnut alors la fameuse perle de la mer qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour et paix de l'âme. Mais il était trop tard, désormais. Hélas, dit Stefano en hochant la tête tristement.
Quelle pitié ! J'ai seulement réussi à gâcher mon existence et la tienne.
Adieu, mon pauvre homme, répondit le cas. Et il plongea jamais dans les eaux noires.
Thank you.
Le cas est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé colombère, calourbra, calonga, calu, balu, chalongra. Les naturalistes, fait étrange, l'ignorent. Quelques-uns même soutiennent qu'il n'existe pas. Deux mois plus tard, poussé par le ressac, une petite chaloupe s'échoua sur un écueil abrupt. Elle fut aperçue par quelques pêcheurs qui, intrigués, s'en approchèrent. Et dans la barque, un spectre blanchi était assis. Et entre ses phalanges minces, il serrait